Voilà, bonjour à chacun. Je vous invite à, dès à présent, ouvrir vos Bibles dans Hébreux, chapitre 11. Et cet après-midi, je voudrais vous partager sur un thème, en commençant avec une question dont je connais déjà la réponse. Alors, vous allez vous dire pourquoi la poser. Cette question, elle est très simple. Qui, cet après-midi, veut voir la gloire de Dieu? Vous voyez, je sais que tout le monde dit oui. Ça serait bizarre même de trouver quelqu'un qui dit « Non, moi, je ne veux pas voir la gloire de Dieu. » Peut-être quelqu'un est athée, peut-être quelqu'un ne connaît pas le Seigneur et ne voit pas ce que ça signifie. Mais d'ailleurs, je me demande même souvent si les gens qui connaissent Dieu savent ce qu'ils attendent quand ils disent « Moi, je veux voir la gloire de Dieu. » Parce que quand on lit la parole, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont renfermées dans cette vérité. Mais je regardais un peu l'origine du mot « gloire ». Dans l'hébreu, ça vient de la luminosité, la netteté, quelque chose qui avait de l'éclat. Et du coup, ça a donné quelque chose qui demande de l'honneur, quelque chose qui exige l'honneur, justement, qui a une renommée, qu'on doit vénérer, qu'on doit adorer, qu'on doit rendre un culte. Ça voulait dire tout ça, à la fois. Et c'est sûr, quand on pense à la gloire de Dieu, on pense par exemple à l'apôtre Paul, qui, alors qu'il était de mauvaise disposition de cœur, il a été arrêté, il est tombé de son cheval parce qu'il a vu une lumière briller et il a vu le Seigneur Jésus qui s'est révélé à son cœur à ce moment-là. C'est sûr que ça, c'est une image qui est forte. Et ce que je trouve intéressant dans cette image, c'est que la gloire de Dieu, il y a toujours un but précis pour l'apôtre Paul, c'était de lui montrer qu'il était sur une mauvaise voie. Quand Dieu nous permet de voir sa gloire, ce n'est pas forcément que justement d'avoir une lumière qui va nous éblouir, mais c'est surtout dans notre cœur quelque chose qui va se passer, qui va nous marquer de telle sorte qu'on va être changé, on va être transformé. Et quand on regarde plusieurs exemples dans la parole où la gloire de Dieu s'est manifestée, il y a une fois où le temple a été bâti, il venait de faire la dédicace, et tout d'un coup, alors qu'il y avait les sacrificateurs qui étaient dans le temple, ils n'ont pas pu rester dans le temple parce qu'il y avait la gloire de Dieu. Et pourquoi? Je réfléchissais simplement à cette chose. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu rester dans le temple? Parce que la gloire de Dieu était tellement intense que les hommes se rendaient compte qu'ils étaient tous pécheurs, tout simplement. Et un des buts de la gloire de Dieu, c'est de nous montrer qu'on est pécheurs. C'est de dévoiler le péché. C'est de montrer les choses qui sont là dans notre cœur et qui empêchent le Seigneur de se manifester. Les choses qui gênent et qui sont dans la maison de Dieu et qui ne devraient pas y être. C'est exactement cette image qui est là. Il y a d'autres exemples. Étienne. Vous savez à quel moment Étienne a vu la gloire de Dieu? Est-ce que c'était un magnifique moment? Est-ce qu'il n'en avait pourtant pas besoin à ce moment-là? C'était au moment où il venait de parler avec le Saint-Esprit dans son cœur, en face des Juifs qui avaient des mauvaises intentions envers lui. Et puis, la Bible nous dit qu'ils ont ramassé des pierres et ils ont voulu le lapider parce que, justement, il venait d'avoir le Seigneur Jésus sur son trône, la gloire du Seigneur Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'il a vu la gloire du Seigneur Jésus à ce moment-là? Parce que c'est ce qu'il avait besoin. Est-ce que vous ne croyez pas que quand on est sur le point de nous lapider, on n'a pas besoin de voir la gloire du Seigneur Jésus? Et je vous donnerai tout à l'heure un témoignage, quelqu'un qui a vécu une épreuve un peu de ce style et qui a vu la gloire de Dieu et qui disait tout simplement « L'épreuve que j'ai vécue, c'est devenu le ciel sur la terre pendant l'épreuve. » Mais je voudrais d'abord qu'on puisse lire ce passage. Hébreux chapitre 11. Et vous allez comprendre après pourquoi je lis le passage sur la foi alors qu'on parle de la gloire de Dieu. Hébreux chapitre 11, c'est le verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir, pour un temps, la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Amen. Ça serait intéressant de lire tout le passage qui nous montre toutes les fois où quelqu'un a eu la foi, ce qui s'est passé. Mais cet après-midi, je voudrais vous rappeler ce simple verset que le Seigneur Jésus a dit à quelqu'un qui avait besoin à ce moment-là de voir la gloire de Dieu parce qu'il y avait une personne de sa famille qui était décédée. Vous vous souvenez à qui le Seigneur Jésus a dit cette parole ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'était à Marthe. Marthe qui était là devant le tombeau, et alors que le Seigneur Jésus disait, mais ouvrez le tombeau, elle disait, mais Seigneur, il sent, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau, il est déjà en train de se décomposer, ça voulait dire. Il sent déjà. Et le Seigneur Jésus lui rappelle quelque chose qu'il lui avait déjà dit par l'intermédiaire de messagers, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il avait dit, le Seigneur Jésus, cette maladie, elle n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Et je vous pose la question cet après-midi, si vous traversez une maladie, est-ce que c'est le but dans votre vie de cette maladie, c'est la mort ou est-ce que c'est la gloire de Dieu? Et ça, il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut vous le répondre. Je sais en tout cas que le Seigneur Jésus est puissant pour guérir, est puissant pour poser sa main, puissant pour intervenir pour ces personnes. Et souvent, on a besoin d'une parole de Dieu, mais on a besoin aussi de quelque chose d'autre, de mettre notre foi dans cette parole de Dieu. Parce que Marthe, elle avait déjà la parole, mais le Seigneur Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, tu as besoin d'être touché par la gloire de Dieu. Tu as besoin que la lumière de Dieu puisse briller. Et quand je parle de la lumière de Dieu, je parle de que un aspect de la personne de Dieu puisse nous interpeller dans notre cœur en réponse aux besoins qu'on traverse. Est-ce que Moïse, par exemple, cet homme dont on vient de lire l'histoire, est-ce qu'il n'avait pas besoin, au moment donné où il a fait une prière au Seigneur, est-ce qu'il n'avait pas besoin de voir la gloire de Dieu quand il a dit « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Est-ce qu'il n'en avait pas besoin ? S'il a fait la prière et que le Seigneur l'a exaucé en plus par la suite. Pourtant, est-ce qu'il ne venait pas de voir la gloire de Dieu de plusieurs manières différentes ? Mais il en avait besoin. À ce moment-là, pourquoi ? Parce que Moïse, il avait compris, il y avait un désir dans son cœur que c'était quelque chose qu'il avait besoin. Il voulait connaître plus de Dieu. Il voulait connaître davantage de la personne de Jésus parce qu'il se rendait compte que plus qu'un désir même, c'était un besoin dans son cœur. Il se rendait compte aussi que ce n'était pas pour son bien-être personnel. Ce n'était pas pour que ça aille mieux dans sa vie. C'était parce qu'il avait une mission pesante sur les épaules et parce qu'il avait cru que le Seigneur l'appelait véritablement à quelque chose. Il avait une parole de Dieu pour sa vie. Et il savait que pour accomplir cette parole, il fallait pas ses propres forces, fallait pas son intelligence, fallait pas ses qualités de parole, parce que il a dit, mais je suis un homme qui bégaye, je sais pas comment faire. Il fallait la gloire de Dieu dans sa vie. C'est tout. Mais c'est déjà bien. Vous êtes d'accord? La gloire de Dieu. Est-ce que nous voulons cet après-midi chercher cette gloire? Il y a ce verset qui explique, qui définit un peu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, dans Proverbe 25, verset 2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et alors que je méditais sur ce passage, je me suis rendu compte que dans beaucoup de manières, le Seigneur Jésus, il cache sa gloire, et la cache pour une bonne raison, c'est que pour nous puissions nous sonder, chercher sa face, et que sa gloire puisse nous être révélée, afin que nous puissions trouver ce qui correspond exactement à notre besoin. La manière la plus incroyable dont il a caché sa gloire, c'est la mort du Seigneur Jésus. Quelque chose d'horrible, quelque chose un sacrifice, du sang, il y a des blessures, il y a des cris, de douleur. Et c'est à cet endroit-là que le Seigneur a mis la plus belle marque de sa gloire. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il ne l'a pas caché quelque part? Il l'a caché, mais si nous voulons régner dans la vie, si nous voulons être des rois, entre guillemets, vous me comprenez bien, le Seigneur Jésus nous dit qu'on peut régner dans la vie par sa grâce. Mais il faut qu'on sonde les choses, il faut qu'on cherche la présence de Dieu, il faut qu'on rentre devant le Seigneur et qu'on lui dise « Seigneur, j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin peut-être que tu dévoiles un péché, j'ai besoin que tu m'éclaires ». Je lisais encore un texte, alors c'est dans l'Apocalypse, il est dit « La ville, la future Jérusalem, n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau ». Et vous voyez que la gloire de Dieu a plusieurs... but. Un autre but encore, c'est d'être d'éclairer d'éclairer notre route. Oui, quand on sera dans le ciel, il n'y aura même pas besoin de soleil parce qu'il y aura la gloire de Dieu qui va illuminer continuellement la ville, la Nouvelle Jérusalem. Et combien on a envie d'y être, on le disait pendant les chants et on le dit encore pendant la prédication parce que c'est une vérité. Combien on aspire à ces moments-là. Mais le Seigneur nous a fait la promesse que sa gloire peut être accessible dès maintenant, toutes les fois où nous en aurons besoin dans notre vie. Voilà pourquoi quand je pose cette question, qui veut voir la gloire de Dieu ? Tout le monde répond, oui, moi je veux. Parce qu'on a tous, quelque part dans notre cœur, un besoin de cette gloire, d'une manière ou d'une autre. On a tous besoin peut-être que le Seigneur se révèle sous sa forme d'amour, peut-être qu'il se révèle sous sa forme de paix parce qu'on est dans la confusion, peut-être qu'il se révèle sous sa forme d'honneur, le Dieu qui règne, le Dieu qui est au-dessus de tout, souverain sur toutes circonstances, qui fait qu'on ne va plus avoir cette peur, cette crainte des événements, mais on va recevoir cette portion de grâce qu'il veut nous donner. Pourquoi alors j'ai pris cet exemple de Moïse ? Parce que justement c'est quelqu'un qui a dit « Fais-moi voir ta gloire » et qui a reçu le Seigneur qui a manifesté sa gloire. « Je te ferai passer devant toi toute ma bonté. » Moïse à ce moment-là, par rapport à la mission qu'il avait sur les épaules, il avait besoin de voir la bonté du Seigneur. Il avait vu la gloire de Dieu d'autre manière. Il avait vu les 10 plaies d'Égypte. Est-ce que ce n'était pas incroyable quand même, 10 plaies d'Égypte ? Il avait vu la mer s'ouvrir en deux. Est-ce que ce n'était pas la gloire de Dieu aussi à cet endroit-là ? Il avait vu tellement et tellement de choses, mais à ce moment-là, alors qu'il était sur la montagne, il se rendait compte que la mission était dure pour lui. « Seigneur, donne-moi ta bonté. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir cette portion de toi dont j'ai besoin pour aller plus loin dans la vie avec toi, pour pouvoir accomplir ce que tu me demandes d'accomplir. » Et Moïse, comme ça a été lu dans ce passage, il avait surtout la foi. Et je voudrais qu'on puisse reprendre donc tout ce processus. Moïse avait la foi, c'est celui qui croit, c'est celui qui va voir la gloire de Dieu. La foi, c'est ce qui nous permet justement de voir la gloire de Dieu. La foi, c'est ce qui nous permet de voir avec les yeux du Seigneur les choses qui se passent autour de nous. Et si on reprenait le verset 1er, qu'on connaît bien de Hébreux 11, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je trouve qu'on perd beaucoup de sens en français, parce qu'en réalité, il est dit « C'est une démonstration des réalités qu'on ne voit pas. » Ce n'est pas seulement des choses, parce que les choses, c'est quelque chose de très vague, vous êtes d'accord. Mais c'est des réalités qu'on ne voit pas. La foi, c'est une démonstration, une conviction qu'il y a des réalités qu'on ne voit pas, mais qui existent pourtant. C'est ça, la foi. Et Moïse, quand on voit ce passage, on revient au verset 23, déjà ses parents... Moïse, il a baigné dans un climat où il y avait la foi dès ses premiers mois. Et les premières personnes qui manifestent cette foi, parce que vous êtes d'accord que ce n'est pas Moïse à 3 mois qui a eu la foi. Enfin, peut-être qu'il l'a eu, mais je ne suis pas sûr. Hein. C'est la foi de ses parents dont il est question là. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois. C'est par la foi de ses parents que Moïse fut caché à sa naissance. Et pourquoi ? Parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Ah ! Quelle maman et quel papa n'a jamais vu son enfant beau, quand même. Est-ce que ça veut dire que Moïse, il avait une beauté particulière ? Peut-être qu'il était blond aux yeux bleus. Hein. Bon, je prends ça au hasard, bien sûr, vu que mes enfants sont blonds aux yeux bleus. Mais peut-être qu'il était brun aux yeux verts, je ne sais pas, peu importe. Est-ce que c'était la beauté physique dont il est question ? Actes chapitre 7, vous savez, c'est le discours justement d'Étienne avant qu'il se fasse lapider, il rappelle là, cette vérité. Oui, Moïse, il était beau aux yeux de ses parents. Et toutes les mamans et tous les papas trouvent que leur enfant est beau. Mais Moïse, il était surtout beau aux yeux de Dieu. Et quand on réalise cette vérité, on comprend que les parents, ils avaient déjà compris quelque chose, eux aussi. Ils avaient compris qu'il y avait une destinée particulière sur Moïse. Ils avaient compris que Moïse, il était appelé à faire quelque chose. Peut-être qu'ils avaient compris que Moïse allait délivrer son peuple. On ne sait pas. En tout cas, il savait que cet enfant, il était beau aux yeux de Dieu, que Dieu voulait prendre soin de lui, que Dieu voulait le garder de la mort. Et eux, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pendant 3 mois. Ils ont caché un enfant. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. J'ai essayé d'imaginer la situation. Mais ils ont réussi à cacher un enfant pendant 3 mois. Mais au bout de 3 mois, il a été exposé. Ils se sont débrouillés autrement. Et vous avez lu ce qu'il est dit ? ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Et moi, comme j'aime bien me souvenir de ce qui s'est passé, je suis allé chercher quel était l'ordre du roi. Et quand je l'ai lu, ça m'a remué dans mon cœur. Vous savez, c'est quoi l'ordre du roi? C'était « jeter tout garçon qui naîtra ». Et il est dit qu'ils n'ont pas cru l'ordre du roi. Et vous savez que nous sommes dans un monde, et que dans ce monde, il y a un prince de ce monde qui règne, et c'est l'ennemi de nos âmes, c'est le diable. Et combien vous savez qu'il est en train aussi de lancer ses ordres afin que tous les hommes, toutes les femmes de cette terre soient jetées dans les eaux boueuses, dans les eaux obscures du monde, et qu'ils soient noyés dans tout cela. Jeter toutes ces choses dans le monde. Il voudrait que tous les chrétiens soient plongés dans le monde. Il voudrait que tous ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu se noient dans le monde. Et combien on a besoin de réaliser que non, on ne veut pas être noyé dans le monde parce qu'on est précieux aux yeux de Dieu. On ne veut pas craindre l'ordre du roi, l'ordre de l'ennemi. On ne veut pas craindre parce que nous, on a un Dieu qui est plus puissant et qui nous a dit d'être vainqueurs sur le monde. La foi qui triomphe du monde, non, c'est pas ça, c'est quoi le verset? La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. C'est bien mieux comme ça d'ailleurs. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Et Moïse, il a eu cette foi. Ses parents lui ont sûrement éduqué dans cette foi. Ce qui est incroyable, c'est que quand Dieu s'occupe de nos situations, alors qu'il y avait un danger, alors qu'il y avait un risque peut-être pour eux-mêmes d'être mis à mort parce qu'ils refusaient d'obéir à l'ordre, ils refusaient que leur enfant soit tué, peut-être qu'ils ont prié le Seigneur, ils ont dit comme Anne, « Seigneur, si tu gardes mon enfant, je te le consacre. » Vous savez que Anne, elle a fait quelque chose. Quand elle a eu son enfant, elle a prêté au Seigneur. Ah, c'est bien de prêter quelque chose à quelqu'un. Elle a prêté toute sa vie au Seigneur. Vous vous rendez compte? Et des fois, on est là, et peut-être qu'on a besoin d'aller devant Dieu et de dire, « Seigneur, tu vois, je veux te prier pour mes enfants, mais je ne veux pas te prier simplement pour moi. Je veux te prier que tu les touches, mais pour qu'ils puissent être tes serviteurs. Qu'ils puissent peut-être aller dans des pays persécutés où ils seront en danger de mort, mais pour ta gloire. Qu'ils puissent aller loin. » Et combien, quand je pense à ça, je pense à mon frère qui vadrouille le monde à droite à gauche pour servir le Seigneur à sa manière. Et combien c'est pas facile quand une personne de notre famille est loin de nous. Mais quand on sait que c'est la volonté de Dieu, est-ce que c'est pas quelque chose qui nous rassure? Quand on sait que le Seigneur prend soin de lui, quand on sait que le Seigneur, il s'occupe de tout ça. En tout cas, Moïse, il est baigné dans tout cela. Et Dieu a changé le mal en bien parce que, alors que le roi, il disait, moi je veux que tous les garçons, ils soient mis à mort et on les jette dans le fleuve. Eh bien, c'est le roi qui a payé pour que Moïse soit éduqué, qu'il soit nourri par sa maman, que sa maman prenne soin de Moïse. Vous imaginez quelque chose d'incroyable quand même. Le roi qui disait, moi je veux qu'il meure, c'est lui qui a pris soin pour qu'il vive. Parce que Dieu change le mal en bien quand on lui met sa foi en lui. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas craint plutôt l'ordre du roi. Et Moïse lui-même, à 40 ans, il se trouvait dans cette situation où il était le fils adoptif de la fille de Pharaon. Et il a eu cette foi, et j'ai pensé que c'était bien de définir la foi de cette manière. Sa foi, c'est cette force qui observe l'invisible. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que Moïse était le fils adoptif de la fille de Pharaon, mais il est dit au verset 24, quand il était devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux toutes sortes de choses. Et ce qu'on va voir très rapidement, mais à l'âge de 40 ans, vous allez me dire, mais 40 ans quand même, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 ans? En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il a eu la foi à ce moment-là. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ah, peut-être qu'il a fallu 40 ans à Moïse pour que sa foi commence à se développer dans son cœur, que la foi que ses parents avaient devienne pas seulement une foi qu'il a reçue par éducation, mais que devienne sa foi personnelle à lui. Peut-être qu'il a fallu 40 ans, que Moïse était long à comprendre. On peut trouver toutes sortes de raisons, mais on ne va pas trop jeter la pierre à Moïse, parce que quand je connais la dureté de mon cœur, je dis, Seigneur, aide-moi à grandir dans la foi, aide-moi à avoir cette foi comme Moïse. Même si Moïse, il a mis du temps, mais en tout cas, lui, il a vu la gloire de Dieu de façon incroyable. Alors Seigneur, moi, je veux être à l'écoute. Moi, Seigneur, je veux te connaître davantage. Moïse, il s'est rendu compte par la foi, il s'est rendu compte qu'il y avait les réalités invisibles qui étaient là. Il a commencé à les observer. Il s'est rendu compte de sa pauvreté. Alors qu'il était un prince d'Égypte, qu'il avait une des positions dans une des plus belles nations du monde à ce moment-là, il avait la richesse matérielle à cause de sa position sociale. Son avenir était tout tracé. Il savait qu'il allait avoir un poste dans la nation. Ça, il n'y avait pas de souci. Mais peut-être qu'il avait une incertitude face à son futur. C'est pour cela que la foi a commencé à germer dans son cœur. Mais d'accord, Dieu veut me... Enfin, d'accord, en Égypte, ils vont me donner toutes sortes de postes, mais devant Dieu, quel est mon poste? Devant Dieu, qu'est-ce que je vais obtenir? Est-ce que je vais avoir même une maison, comme on l'a chanté tout à l'heure, dans son ciel? Et il a commencé à réaliser qu'il avait la richesse sociale. S'il claquait du doigt, il avait des serviteurs qui étaient là pour lui obéir, pour faire ce qu'il lui demandait. Mais il se rendait compte que face au péché, il était incapable de le maîtriser. Il était incapable de le surmonter. Il s'est rendu compte qu'il avait la richesse de l'instruction. La civilisation égyptienne, à ce moment-là, était très avancée. Ils avaient l'écriture, ils avaient toutes sortes de choses. Quand on regarde les monuments qu'ils ont pu faire, il y avait toute une connaissance. Et il est dit même dans les actes qu'il avait il était puissant en parole et en œuvre à ce moment-là. Mais il était totalement ignorant de comment servir le Seigneur. Il était totalement ignorant de comment parler des choses de Dieu. Il était totalement ignorant de beaucoup de choses, de tout ce qui concerne Dieu. Et c'est pour ça qu'à 40 ans, par la foi, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a voulu retourner dans son peuple, il a voulu avoir cette communion avec son peuple, et il a commencé à voir les véritables trésors qui se voient seulement par la foi. Il a préféré être maltraité avec tout le peuple, plutôt que de jouir du péché pour un temps. Et ça nous fait penser justement à ce témoignage d'Étienne, qui lui a subi cette méprise, a subi cet outrage, a subi cette persécution jusqu'à la mort, parce qu'il le faisait pour le Seigneur. Mais je voudrais vous donner ce témoignage d'un homme qui était au Népal et qui prêchait l'évangile au Népal, un Indien qui s'est converti, qui prêchait l'évangile au Népal. Vous savez qu'au Népal, c'est la religion avec les... Comment ça s'appelle déjà? Je ne sais plus. Les bouddhistes, voilà. Des bouddhistes qui ont une position très forte là-bas, à l'époque. C'était au milieu du 20e siècle, pardon. Et alors qu'il commençait à parler de sa religion, il commençait surtout à parler de Jésus, les gens ils disaient, et c'est interdit que tu parles de Jésus ici, c'est interdit que tu parles de cette religion, est-ce que tu as un ordre du roi? Le roi d'ici, il interdit qu'on parle d'une autre religion que le bouddhisme. Et lui, il dit, oui, mais moi, c'est le roi des rois qui m'envoie. C'est le roi des rois qui m'appelle à faire ça, alors je suis obligé de le faire. Alors ils lui disent, ben, on va voir ce que ton roi va te faire, on va te mettre en prison. Et ils l'ont mis en prison, ils l'ont mis les ceps aux pieds et aux mains, et ils l'ont totalement dévêtu, et ils lui ont mis des sangsues sur tout le corps. Et ils ont dit, maintenant on va voir comment ton roi des rois va te sauver. Est-ce que cet homme, il n'avait pas besoin de voir la gloire de Dieu? Et il dit, à cause de ma faiblesse, à cause de mon incrédulité, pendant une demi-heure, j'ai souffert le martyre. Mais au bout d'une demi-heure, j'ai placé véritablement ma confiance en Dieu. Et alors qu'il a commencé à faire ça, il a senti, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, il a senti quelque chose qui se passait dans son âme. Il a senti une joie, il a senti une paix, il a senti un bonheur incroyable alors qu'il était le corps recouvert de sangsues. Et alors qu'il était là au milieu de la prison, il commença, lui qui n'avait pas une voix de chanteur, il commença à chanter des cantiques magnifiques pour le Seigneur. Il commença à prêcher. Et les gens qui l'avaient mis en prison, ils commençaient à venir. Et il y a eu tout un attroupement autour de la prison. Et les gens commençaient à entendre cet homme-là. Et puis, il y avait dans la prison une autre personne qui avait eu entre ses mains, par son intermédiaire, un évangile. Et qu'il avait totalement déchiré. Et il était en train de se moquer de lui. Et puis, quand il commence à le voir, en train d'être joyeux, en train d'être plein, le sourire sur les lèvres, alors qu'il est dans une situation incroyable. Il a commencé à changer son cœur. Et il y a quelqu'un de la prison qui est allé voir le gouverneur, qui lui a dit, mais il faut faire quelque chose, parce que quand cet homme il était dans la rue, il n'y avait pas autant de personnes, mais là, depuis qu'il est en prison, il y a beaucoup plus de personnes qui vont écouter ce qu'il nous dit. Il faut s'en occuper, il faut le libérer. Et alors le gouverneur, il dit, ben, on va le libérer, parce qu'un homme qui agit comme ça, c'est obligé qu'il soit fou. Et à ce moment-là, celui qui était en prison, il a dit, ben, si cet homme, il est fou, Alors moi aussi je veux être fou parce que je veux être heureux, je veux être dans la joie, je veux avoir cette paix, je veux avoir toutes ces choses que je ne peux pas avoir. Et à ce moment-là, cet homme il s'est approché de ce monsieur qui est en train d'être libéré. Il lui a dit, mais comment je dois faire pour être pardonné? Et il lui a dit, mais simplement, va au Seigneur Jésus et tu obtiendras le pardon. Va au Seigneur Jésus et tu obtiendras la paix. Tout simplement. Quelqu'un qui a vu la gloire de Dieu au moment où il en avait besoin. Et je crois vraiment qu'il en avait besoin à ce moment-là. Et je crois que toutes les fois où nous en avons besoin, et il y a tellement de situations, je ne voudrais pas énumérer toutes sortes de situations, le Saint-Esprit il sait très bien, et il sait appuyer dans vos villes, quelles situations vous avez besoin de voir la gloire de Dieu. En tout cas, il y a beaucoup de situations où on a besoin de voir cette gloire, de développer donc cette foi qui arrive à observer l'invisible, qui on se rend compte que oui, être moqué à cause du Seigneur Jésus, c'est un trésor. C'est une bénédiction. Et on ne regarde plus ça comme une occasion de chute. On regarde ça comme une occasion de se glorifier dans le Seigneur. Merci Seigneur, tu m'as rendu digne, comme les disciples ont pu le faire. Tu nous as rendu digne d'être persécutés à cause de ton nom. Seigneur, quelle grâce. Quand on arrive à ce niveau de compréhension, je crois qu'on a fait de grands progrès avec le Seigneur. Je crois que notre foi, elle est grande. Mais Moïse, il avait cet appel sur sa vie, il se rendait compte que Dieu voulait qu'il soit l'intermédiaire pour libérer le peuple d'Israël, mais il a commencé à un moment donné à essayer de se débrouiller par ses propres forces. Et quand on voit dans l'Exode comment ça s'est passé, on se rend compte qu'il a totalement manqué de foi à un moment donné. Autant il a eu la foi juste avant pour retourner voir ses frères, pour rejeter sa position, autant il a manqué de foi quand il a voulu libérer son peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous cite très rapidement. Il a vu que les Israélites étaient sous des travaux très pénibles. Il a vu, encore une fois, un Égyptien frapper un Hébreu. Il a vu qu'il n'y avait personne autour. Et j'insiste bien sur le fait qu'il a vu, mais il a vu avec ses yeux. Il s'est appuyé sur ce qu'il voyait. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un mort. Il a tué l'Égyptien. Et Moïse, à ce moment-là, manquait de foi et il n'a pas regardé les choses comme Dieu pouvait les voir. Parce que s'il avait regardé avec la foi, avec ses yeux du cœur, il aurait vu qu'il y avait au moins Dieu qui le regardait. Parce que même quand on est tout seul, le Seigneur, il nous regarde. Et la question se pose, qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes tout seuls? Est-ce que nous oublions que le Seigneur est là et nous permettons de certaines choses? Moïse, il avait oublié pendant ce moment-là. Le résultat, c'est qu'il a tué quelqu'un. Et souvent, quand on commence à s'appuyer sur nos yeux, quand on commence à s'appuyer sur nos sentiments, sur les choses qu'on entend de ce monde, il va se passer quelque chose, un résultat mortel, pour nous ou pour nos proches. Il va se passer une blessure, il va se passer quelque chose qui va nous faire mal, parce qu'on ne s'appuie pas sur la... On n'a pas cette confiance en Dieu. Et Moïse, il a été totalement ignorant du fait qu'il y avait sûrement quelqu'un qui l'a observé. Parce que par la suite, on se rend compte, quand il va voir des gens qui se disputent de son peuple, et il lui dit, « Eh oh, tu vas faire comme tu as fait pour l'Égyptien ?» Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui avait assisté, qui avait déjà raconté à plusieurs personnes. Et je crois qu'à ce moment-là, Moïse, je crois qu'il s'est repenti. Parce que la Bible nous dit que c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Et moi, j'ai toujours cru qu'il était parti de l'Égypte parce qu'il était tremblant de peur. Mais c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Je crois qu'à ce moment-là, il a réalisé qu'il ne valait rien de lui-même, que ce n'est pas sa force, ce n'est pas son instruction, ce n'est pas tout ce qu'il avait pu acquérir de son éducation qui allait pouvoir libérer le peuple, qui allait pouvoir lui permettre d'accomplir la mission. Ce qui allait lui permettre d'accomplir la mission, c'est la foi en Dieu. Regardez ce qu'il est dit au verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et je crois que c'est une des plus belles définitions de la foi. De se montrer ferme comme voyant celui qui est invisible. Se montrer ferme face à toute la colère du roi, la colère, encore une fois, de l'ennemi qui se déferle sur chacun de nous, tout le poison que l'ennemi veut inoculer dans nos vies, de telle ou telle manière, par toutes sortes de médias, par toutes sortes de paroles qu'on peut entendre, par toutes sortes d'images qu'on peut voir. L'ennemi voudrait inoculer toutes ces choses. Il voudrait déverser sa colère sur nous. Mais par la foi, en voyant celui qui est invisible, on peut lui résister. On peut demeurer ferme. Et ça nous rappelle ce verset. Résistez-lui. avec une foi ferme. Vous voyez que la parole de Dieu sait pertinemment de quoi elle parle. Et je voudrais simplement voir cette autre dimension de la foi. Il y a cette foi qui observe l'invisible, mais il y a cette foi, cette force qui ouvre l'impossible. Et vous savez que cette définition-là, je l'ai lue dans la Bible de M. Galifot. En face d'Hébreu 11, il a marqué « foi égale la force qui ouvre l'impossible ». Et quand j'ai lu cette parole, j'ai dit « c'est beau, mais c'est encore plus beau parce que c'est M. Galifot qui l'a écrit ». Parce qu'il sait de quoi il parle. Quand on entend les expériences qu'il nous raconte. Et le verset 29 nous illustre tellement bien cette vérité. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Ce qui était totalement impossible. Devant eux, il n'y avait plus de chemin. Derrière eux, il y avait l'ennemi qui le poursuivait. Mais par la foi, Moïse, il a eu la foi. Et la mer s'est ouverte comme Dieu veut ouvrir peut-être quelque chose, une situation. Il veut l'ouvrir en deux et permet de traverser. On n'imaginerait même pas pouvoir passer par ce chemin. Mais Dieu, lui, il est capable de le faire. Simplement, il faut qu'on ait cette confiance en lui. Il faut qu'on ait cette force qui ouvre l'impossible. Ce n'est pas nous qui ouvrons quoi que ce soit. Ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. Parce que nous, on est incapables de le faire. Mais nous mettons notre confiance en Dieu qui, lui, est capable de toutes choses. C'est ça la foi qui ouvre l'impossible. Et je voudrais finir avec cet exemple au verset 28. C'est par la foi que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Et vous imaginez la scène quand même. Seigneur qui leur donne cet ordre, il faut mettre du sang au-dessus des linteaux de la porte. C'est-à-dire que toutes les maisons, il fallait qu'ils bariolent l'entrée avec du sang. Est-ce que c'était quelque chose de beau? Est-ce que c'était quelque chose de même qui sentait bon? Est-ce que ça allait donner de la valeur à la maison par la suite? Oui, mais on se rend compte de quelque chose, c'est que Dieu ne voulait pas qu'il reste là. Alors de toute manière, ça c'était pas important. Et puis simplement, Dieu, il attendait l'obéissance. Et il a demandé ça au peuple d'Israël, surtout pour nous montrer à nous qui avons connu la crucifixion du Seigneur, cette image magnifique qu'a la Pâque. C'est le sang de Jésus qui a coulé. Oui, ce n'était pas quelque chose de beau. Oui, ce n'était pas quelque chose qui semblait glorieux. Mais quelle plus belle gloire a pu être manifestée par la mort du Seigneur Jésus. Quelle plus belle gloire a pu être manifestée. Tous les pécheurs maintenant peuvent être sauvés. Tous les pécheurs peuvent être pardonnés. Vous savez que pourtant il y avait cette menace incroyable. Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, tout simplement. Oui, je crois ce soir, je crois que nous avons besoin de voir la gloire de Dieu, d'avoir cette foi comme Moïse, qui observe l'invisible, cette foi qui ouvre l'impossible dans les situations où on pense que c'est impossible que ça aille plus loin. Seigneur, j'ai besoin d'avoir cette foi, j'ai besoin simplement de voir ta gloire. Est-ce que nous pouvons cet après-midi faire cette prière? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Si j'ai besoin que tu me dévoiles un péché, si j'ai besoin que ta lumière me brille pour montrer le chemin à suivre, Seigneur, en tout cas, moi, j'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin que tu te manifestes. Peut-être que j'ai besoin de paix. Peut-être que j'ai besoin d'amour. Peut-être que j'ai besoin de cette joie, même dans la persécution, même quand on se moque de nous. C'est sûr que la persécution que l'on vit, ce n'est pas celle que vivent les Coréens du Nord. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin de voir la gloire de Dieu quand même dans toutes ces situations, toutes les fois où on se moque de nous parce qu'on a pris une décision pour Dieu et que les gens nous bafouent, les gens nous rabaissent ou simplement les gens sont indifférents? Est-ce qu'on n'a pas besoin de dire « Seigneur, je veux cette joie ». Jésus l'a promis « Heureux serez-vous quand on se moquera de vous à cause de moi. Heureux serez-vous ». Est-ce que nous sommes capables d'être heureux dans ces moments-là? Ou est-ce que nous laissons les choses de la terre prendre le dessus? Est-ce que nous sommes plus ou moins noyés dans les choses de ce monde? Simplement, cet après-midi, venons au pied du Seigneur Jésus. Disons-lui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux sonder les choses. Je veux surtout sonder ta présence. Je veux sonder ta parole afin que ta gloire puisse se manifester, afin que je puisse avoir cette révélation dont j'ai besoin aujourd'hui, maintenant. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je crois que tu es capable de guérir. Je crois que tu es capable de ressusciter. Ta parole nous le dit. Je crois, Seigneur, que tu es capable de faire toutes ces choses. Mais je veux que tu me révèles la gloire que tu as prévue pour moi, dans mon cœur, de façon personnelle, avec l'engagement que j'ai. C'est moi-même qui désire voir ta gloire. Je ne veux pas quelque chose de général, quelque chose qui passe au-dessus de tout le monde. Je veux ma portion de gloire pour que ma vie soit visitée de toi, que le nom du Seigneur soit béni. Oui, Jésus, nous bénissons ton nom cet après-midi. Nous bénissons ton nom parce que tu nous donnes, Seigneur, le moyen de pouvoir voir ta gloire. C'est celui qui croira qui verra ta gloire, Seigneur. Et combien nous réalisons en lisant tous ces exemples, tous ces hommes de Dieu qui ont vécu des moments où ils ont vu ta gloire, combien nous réalisons que nous avons besoin aussi de vivre ces instants-là, les instants que tu auras préparés pour nous, Seigneur. Merci parce que tu n'es pas un Dieu qui nous laisse dans notre difficulté, qui nous laisse dans notre situation impossible, mais tu es un Dieu qui nous visite, qui nous manifeste ta gloire, Seigneur. Toutes les fois où nous en avons besoin, cet après-midi, nous croyons que nous avons besoin de voir ta gloire. Nous croyons que c'est quelque chose qui est là au plus profond de nous-mêmes, qui a comme un vide, qui a besoin d'être rempli. Et c'est que ta présence qui peut le faire, Seigneur. Oui, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et nous voulons chercher, Seigneur, chercher ta face, chercher, sonder ta parole. La laisser nous sonder aussi, Seigneur, afin qu'elle puisse dévoiler peut-être ce qu'il y a besoin qu'il soit dévoilé, que ta vérité puisse être et demeurer au fond de notre cœur, que ta sagesse, Seigneur, puisse nous envahir, Seigneur, afin que nous puissions suivre tes voies. Seigneur, nous désirons cet après-midi avoir cette foi qui observe, qui se rend compte des réalités qui sont dans l'invisible. Oui, tu es le Dieu qui est sur ton trône. Oui, il y a un ennemi, mais toi, tu es sur le trône, Seigneur, et tu as vaincu l'ennemi. Alors nous voulons être fermes, nous voulons être solides, nous voulons être enracinés en toi, par la foi. Oui, nous voulons, Seigneur, croire aussi que tu ouvres l'impossible, Seigneur, par ta grâce. Oui, tu as ouvert ce qui était impossible à tous les pécheurs. Tu as ouvert ton ciel, tu as ouvert ta gloire, Seigneur, afin que nous puissions maintenant rentrer par ta grâce dans ce salut que tu as accompli en Jésus. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Quelle que soit la situation des personnes qui sont là cet après-midi, tu es capable d'intervenir. Alors, Seigneur, simplement, réponds à la prière de tous ceux qui te demandent. Fais-moi voir ta gloire. Amen.